Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Les guerres de la Vierge.
Vada messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera.
Les messages principaux que la Vierge nous donne, ce sont la prière
et pace,
la paix,
conversione,
la conversion,
confessione,
la confession,
digiuno
et le jeûne.
Depuis 2000 ans, les spécialistes ont recensé au moins 2400 lieux ou moments où la Vierge serait venue attester de son existence et de son identité en se manifestant à des voyants. Ces modes d'attestation sont très variés. La Vierge de Lourdes, qui nous est la plus connue, blanche et bleue jusqu'à la mièvrerie, dit apporter la confiance, la miséricorde, la guérison. Mais celle de la Salette, qui se manifesta sur un plateau aride des Alpes en 1846, affichant les armes de la passion et un langage de punition. C'est une vierge d'avertissement. La Vierge de Fatima appelle aussi à une recomposition du monde. L'événement eut lieu le 13 mai 1917, en pleine guerre, au lendemain de la Révolution russe. Les secrets que la Vierge aurait confiés à la voyante furent dévoilés pour les deux premiers en 1941 et pour le troisième en 1981, après l'attentat contre Jean-Paul II. Fatima, c'est une vierge pourtant tragique. Néanmoins, c'est l'aspect compassionnel, individuel, que l'Église d'aujourd'hui tente de lui faire prendre, qui permet son succès grandissant. Car l'Église surveille les apparitions comme le lait sur le feu. Sur 2400 apparitions, 16 seulement ont été pleinement reconnues. L'apparition la moins difficile à gérer, c'est en France. Pontmain, dans la Mayenne, en 1871, la Vierge se manifeste d'emblée dans l'église, devant le curé, et là justement, avec la doctrine est aisée. La situation la plus instable, c'est Medjugorje, une Vierge de Bosnie-Herzégovine, qui présente l'inconvénient de se manifester tous les jours, depuis 1981. Une guichetière de la Poste qui délivre un message quotidien, aurait dit le pape François. Une Vierge de guerre, elle aussi, puisqu'elle s'est retrouvée sur les lignes de faille de l'ex-Yougoslavie. C'est souvent ainsi, les pèlerins en toute bonne foi croient être chez la Vierge, mais ils se retrouvent en réalité dans un champ de bataille idéologique et politique.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Elisabeth Clavery, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
L'incroyable dans les apparitions, dans les guerres, dans la violence, c'est votre domaine. Vous êtes une femme de terrain, une femme d'enquête qui écoute et tente de capter ce que l'oreille n'arrive pas à entendre, qui essaie de ne rien retrancher de la complexité. Alors quand vous dites que parmi vos nombreux sujets de terrain, il y a les apparitions, les collègues sarcastiques vous font des clins d'œil un peu étonnés, à quoi vous répondez ?
C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à travailler, on n'aurait jamais ricané si j'avais travaillé sur un fétiche quelconque ou sur un dieu hindouiste ou etc. Mais la Vierge Marie, c'était un peu trop. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre qu'une apparition, qu'une situation dans laquelle on jette une apparition, c'est très 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 intéressant pour un anthropologue.
Les théologiens de la Sainte Église, ils regardent ça avec détachement ou répulsion, ils tournent le dos. Et alors, vous leur dites quoi ?
Et je leur dis qu'ils devraient plutôt lui faire face, parce que ça les introduirait dans la façon qu'a la Vierge d'être moderne, c'est-à-dire de s'adresser en direct à toutes sortes de gens et à laisser la place à toutes sortes de controverses.
Attendez, elle s'adresse à des voyants. On va prendre dans la première partie l'exemple de Fatima, des voyants qui ont une communication avec le surnaturel que les autres n'ont pas.
C'est ce que les autres leur reprochent d'ailleurs. Parce qu'en général, quand un enfant voyant a une apparition, en général, il n'est pas seul. Il est avec un compagnon ou une compagne. Et très souvent, une des personnes qui a eu l'apparition, elles peuvent être deux ou trois, c'est le schème le plus fréquent, un des enfants parle. Et à ce moment-là, il prend une claque, une gifle de la part de sa mère. Et cette gifle signifie simplement retour à la réalité, mais surtout et avant tout, pourquoi toi ?
Et pourquoi pas moi ?
Oui. Voilà.
C'est un élément de discorde voilà. qui s'introduit avec le voyant.
Tout de suite, tout de suite.
Alors, il y a des étapes à Fatima, des signes avant-coureurs. La Vierge est là à partir du 13 mai. Elle vient, elle revient, elle va parler peu à peu, les messages n'étant entendus que par les voyants, et surveillée de très près par toutes les instances politiques, policières, ecclésiastiques, locales. Dans le cas de Fatima, au centre du Portugal, la dernière apparition, c'est le 13 octobre. Elle s'accompagne de toutes sortes de phénomènes, qu'on va dire astronomiques, devant quelques 60 000 personnes, dont ce prêtre qui, à l'époque, était jeune séminariste.
J'étais séminariste à ce temps-là. On nous avait raconté, on nous avait donné la pulle que ce n'était pas une apparition vraie. On nous disait, on ne sait pas si c'est de la partie du bon Dieu, si c'est de la partie du diable. Mais l'apparition finie, et nous avons regardé le ciel et nous avons vu comme si c'était une étoile partant d'une distance apparente de 1 mètre du soleil en aller vers le couchant. Et après ça, elle est revenue encore. Après ce phénomène, on a vu comme si c'était une pluie de pétales de roses jusqu'à une hauteur de 2 mètres environ.
Mariage Josefa Mangas maintenant. Le soleil n'avait pas de rayon, il ressemblait à la lune, il tournait, il s'abaissait, il devenait tantôt jaune, tantôt bleu, tantôt rouge. Alors tout le monde a eu peur et s'est mis à crier, mais Lucie s'est levée et elle a dit ne pleurez pas, j'ai parlé à la Vierge, elle a dit que la guerre finira. Lucie nous a dit aussi que les militaires portugais reviendraient chez eux, mais qu'il faudrait prier beaucoup.
Témoignage infiniment tardif, Panorama, Télévision française, 1975. Ce que disent les historiens de Fatima, les historiens qui essayent de revenir au plus près, de s'ajuster à l'année où a lieu l'événement, 1917, pleine guerre, le Portugal a rejoint les alliés, ses soldats sont en difficulté, la révolution russe vient de se produire, la première révolution russe.
Oui, ce qui intéresse beaucoup les historiens, c'est effectivement de situer le contexte des apparitions et de se rendre compte d'abord, ça c'est une constante, que les apparitions ont toujours lieu dans des situations de crise, qu'il s'agisse de crise économique ou de crise politique grave comme peuvent l'être des guerres évidemment, mais surtout que ces apparitions, c'est ce que montrent les historiens, sont l'expression d'une partie particulière du catholicisme et de la vie politique, qui sont souvent des mouvements intransigeantistes.
Qui veulent remettre le monde en ordre.
Voilà, qui veulent remettre le monde en ordre, qui considèrent que les mœurs sont dévoyées, que les comportements moraux de la population sont déplorables et qu'il faut mettre en place un travail de reprise en main et qui considère que ce qui est important, c'est de montrer le type de position que dans certaines situations où les républicains, par exemple, auraient le pouvoir,
comme au Portugal à ce moment-là,
effectivement, les fractions conservatrices du pays ont tenté par ce moyen, par le biais des apparitions, de remobiliser, d'être un facteur de remobilisation des énergies conservatrices.
Alors, on va continuer à suivre le point de vue des historiens. Un peu plus tard, on va venir à celui de l'anthropologue que vous êtes. Dans le droit fil de ce que vous dites, on a vu à Fatima, à partir du moment où Salazar a organisé son pouvoir, les courants les plus conservateurs capter le message. Parce qu'il y a des secrets à Fatima qui surgissent peu à peu dans l'esprit des voyants, qui oui. ensuite les communiquent à l'Église.
Si vous voulez, il y a différentes façons de travailler sur cette chaîne. Très souvent, les historiens par exemple, quand ils travaillent sur cette chaîne, sur la chaîne exégétique, sur la chaîne de parole des témoins, ils vont Ce qui est intéressant dans une apparition, c'est que c'est une chaîne de porte-parole. Donc, dans l'entourage des voyants, lorsque les voyants disent, comme les voyants de Fatima disent devant une foule ou devant un petit groupe ce que la Vierge vient de leur dire, ce message est repris et diffusé, soit à un petit nombre, soit à un grand nombre, d'abord à un petit nombre de personnes dans le cas de Fatima. Et ce message, bien entendu, ce que regardent les historiens, c'est l'histoire de la transformation de ces messages, puisqu'ils en retrouvent les traces dans des sources écrites. Donc, ce qui était au début une inquiétude pour les soldats va devenir une prédiction sur la date de la fin de la guerre, puis une réinterprétation quelques jours plus tard sur la date de la fin de la guerre, puisque la Vierge avait d'abord dit à Lucie, à la petite Lucie qui avait 10 ans, que cette guerre se terminerait tout de suite et que nos soldats allaient partir. Mais il fallait enclencher derrière ça un message sur pourquoi cette guerre avait lieu, en quoi elle était ou non légitime, et ce qu'elle venait faire profondément, éthiquement, dans cette langue-là, c'est-à-dire réparer les péchés. Et c'était la colère de Dieu qui se manifestait à travers cette guerre. Donc tout ça, il fallait le dire.
Et après la révolution russe et la prise du pouvoir par les communistes, comment réparer? Eh bien, en consacrant la Russie au cœur immaculé de Marie, Lucie, la voyante, écrit les secrets. Les deux premiers sont communiqués sous enveloppe, révélés par le pape Pie XII, qui est très proche du sanctuaire de Fatima en 1941. Quant au troisième, voici qu'il a été confié au patron de ce qu'on appelait autrefois le Saint-Office, le cardinal très conservateur, Ottaviani, qui dit ceci peu après l'époque de Jean XXIII, auquel il s'était violemment opposé.
L'évêque de Leiria, qui est l'évêque du lieu dans lequel se sont manifestés les messages de la Très Sainte Vierge, a envoyé à la congrégation de la doctrine de la foi, jadis Saint-Office, le message mais closed, avec l'adresse écrite par la même sœur Lucie. Et je l'ai confié au Saint-Père Jean 23, close. Le Saint-Père l'a gardé. Je sais aussi qu'il a aussi laissé ce message à son successeur et que le Saint-Père Paul VI l'a tenu chez soi, chez lui, et il l'a naturellement lu. Et puis, je ne sais pas maintenant où est-il, dans quelle archive ce message est gardé.
En 1978, au moment de son élection, Jean-Paul II n'avait prêté aucune attention à cette prédiction. L'histoire est carrément incroyable, car si l'on suit à la lettre le contenu du troisième secret de Fatima, un évêque vêtu de blanc tombait à terre comme mort sous les coups d'une arme à feu.
Et l'attentat contre Jean-Paul II, c'est le 13 mai 1981, la date anniversaire, c'est le jour, c'est la minute, dira Jean-Paul II, qui fera ouvrir le troisième secret. D'où une suite d'interprétations qu'il est facile de deviner.
Oui, bien sûr. Une des dernières interprétations, elles vont continuer de courir et de réinterprétation et à réinterpréter des événements contemporains qui leur sont contemporains. Là, effectivement, dans les milieux Mario, dans tout ce monde qui suit les pèlerinages, on se passe sous le manteau une petite vidéo qui montre la main de la Vierge arrêter la balle, se saisir la balle tirée par cette personne contre le pape. Et cette scène est commentée avec un immense plaisir, regarder, re-regarder, etc., etc.
Et c'est Fatima traditionnelle là, que nous avons observée. On disait au temps de Salazar, un petit peu de musique, ce sera du fado obligatoirement, football, Fatima, fado, la grande Amalia Rodriguez qu'on a reliée à tort ou à raison au régime de Salazar.
Que Dieu je me pardonne. Mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Alors ce jour-là, Mériana là, et Ivanka, les deux, vont être là en attendant Vitska. Et à un moment donné, dans l'après-midi, vers 5 heures de l'après-midi, le 24 juin 1981, Ivanka tourne son regard vers la colline et dit à l'autre « Mais c'est la Vierge !» L'autre fille, sa copine, c'est-à-dire Mériana, une fille de ville de Sarajevo, elle va dire « Mais de quoi tu parles ? Quelle Vierge ?»
Quelle Vierge ? Eh bien, celle de Medjugorje, maintenant en Bosnie-Herzégovine, qui est apparue sur une colline, d'abord une colline aussi difficile d'accès qu'un maquis, où vous vous êtes rendue plus d'une fois, Elisabeth Clavry, parce que maintenant vous allez parler en anthropologue, comme vous le faites dans un livre extraordinaire sur les guerres de la Vierge, consacré justement à Medjugorje.
Oui, parce que, au fond, les anthropologues se suspendent un instant la question de la voix donnée par les apparitions au ressentiment intransigeantiste. L'anthropologue, sachant bien entendu que c'est bien le cas, mais va essayer de voir ce que une apparition, quelqu'un qui un surnaturel qui arrive dans une situation, permet comme expression de ressentiment, de revendication par des gens ou dans des régimes ou dans des situations où cette parole n'est pas possible.
Parce que là, c'est une boule sur un jeu de billard. Voilà un événement qui n'est pas contrôlé par le parti qui, à l'époque, tient toujours la Yougoslavie.
Voilà, c'est le parti. On est quelques années après. Les premières apparitions ont lieu en juin 81. Tito est mort depuis très 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 peu de temps. 1980, oui, Tito est mort depuis très très peu de temps. Et les gens de la région d'Herzégovine, dont sont issus les voyants, sont des gens qui sont pris dans une absolue impossibilité de parler, défense de s'exprimer. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent avoir une parole publique sont les descendants ou des troupes
des militants partisans.
Et ces personnes d'Herzégovine sont réputées avoir été pendant la guerre des oustachis, c'est-à-dire...
Oustachis égale croate, égale fasciste, égal croate, enfin, c'est l'équivalent.
Voilà, c'est l'équivalent. Donc, on considère que ces personnes... étant fascistes, ne peuvent pas s'exprimer, n'ont pas le droit à la parole, etc., à condition d'un travail de reddition publique. C'est-à-dire que pour obtenir une carte du parti, pour obtenir le fait de pouvoir aller travailler comme étranger en Allemagne, par exemple, ils doivent faire allégeance. Mais dans l'espace domestique, au sein des familles, etc., là, une plainte se fait jour après jour.
Qui va pouvoir s'exprimer. C'est la prise de parole, l'apparition.
Voilà. Et l'apparition va permettre cette prise de parole. C'est-à-dire, elle est au fond à une espèce de fantôme qui permet à tous ces gens, à toute cette communauté, à la communauté des voyants qui a été persécutée pendant très longtemps et même massacrée dans ces villages, à la sortie de la guerre mondiale, non pas de la Seconde Guerre mondiale, non pas qu'un certain nombre de ces personnes n'aient pas été oustachis, ça a bien été le cas, mais c'était loin d'être le cas de tous, y compris dans le village des voyants.
Alors, le village, il est misérable. Et vous dites qu'au bout de quelques années, là où il y avait une salle de bain, il y en a 1000. L'ouverture, l'événement, c'est ça aussi, c'est la possibilité de s'enrichir, d'ouvrir une pension dans laquelle on fait venir les pèlerins.
C'est absolument ça. Quand j'ai commencé à travailler dans les premières années, on ne pouvait pas dormir à Medjugorje, il n'y avait pas de place disponible, il n'y avait ni salle de bain, ni chambre, ni quoi que ce soit disponible pour cette foule, ce début de groupe qui commençait à arriver dans le village, et on allait dormir dans les hôtels de la nomenclatura à 40 kilomètres de là. Et puis, progressivement, des pensions, des accueils, on appelait la Vierge de Medjugorje l'or bleu.
Et viennent des communautés charismatiques qui s'intéressent beaucoup au phénomène, vient aussi le soutien de l'abbé Laurentin, qui est un théologien qui lutte pour le culte de Marie en dépit des efforts de la hiérarchie catholique. Et ces gens dont vous avez partagé les pèlerinages, ils savent pas où ils sont. Ils sont chez la Vierge. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ils sont chez la Vierge?
Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces gens, les gens qui viennent en pèlerinage sont souvent en situation de très grande difficulté. Ce sont des gens qui viennent soit en période de fin de vie, soit parce que des proches ou des êtres aimés proches sont gravement malades, ou des situations de chômage, des situations de rupture, etc., etc. Et, pour se trouver dans une situation qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire en mesure de communiquer avec cette Vierge, ils doivent ne plus appartenir tout à fait à un monde géopolitique. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de savoir où ils sont. Ils sont orientés vers un espace qui est qu'ils appellent chez la Vierge Marie.
Sauf que ils sont sur une ligne de faille. 1991, proclamation de l'indépendance de la Croatie, début d'une guerre terrible. Encore que Sœur Emmanuelle, dont vous parlez souvent, qui appartient à une de ces communautés charismatiques que je citais, explique, selon la doxa traditionnelle, que, évidemment, la Vierge a protégé de son manteau le village.
J'étais effectivement présente avec ma petite communauté des Béatitudes, nous étions quatre, ici sur place, donc en avril 92, quand les premiers bombardements ont atteint la Bosnie-Herzégovine et que nous avons commencé dans le village à entendre les avions, les bombes tomber, le sol trembler, nos fenêtres, nos murs, nos portes vibraient un maximum. Alors nous avons été très marqués par le fait que ce village a été, je peux dire, miraculeusement protégé durant la guerre. Un avion MiG conduit par un Serbe qui avait charge, mission de bombarder l'église et le village est reparti avec sa bombe parce que, arrivé sur le lieu, le village avait disparu à ses yeux. Il y avait une espèce de nuée blanche lumineuse et du coup, il a remballé sa bombe et il est reparti. Il a été shooté par des soldats croates. Il est tombé en parachute et lui-même a témoigné. Donc, il avait été dans l'incapacité mystérieusement de bombarder Medjugorje. Il n'est pas le seul. Il y a eu beaucoup de morts dans les villages autour de nous, mais j'avoue que Medjugorje a été, nous en sommes témoins, il n'y a pas eu un mort. Dans le gros des combats, c'est-à-dire avril, mai et juin 92, il n'y a pas eu un seul mort ni un seul blessé. C'est tout à fait exceptionnel dans la région. La police locale s'interroge encore sur ce phénomène.
France Inter 1994, voilà au moins un Serbe qui s'est bien comporté. Parce que quand la guerre d'indépendance ravive les souvenirs de la seconde guerre que vous évoquiez, Elisabeth Clavry, les contradictions violentes entre Tchétchènes serbes, communistes, et Oustachis croates, fascistes, rejouent.
Oui, parce que si pour les pèlerins venus de l'étranger, ce lieu, Medjugorje, est un site, et n'est pas un site, est chez la Vierge. Par contre, pour les locaux, pour le village, pour les Croates de la région, c'est un signe de ralliement. Et ce qui est très intéressant à Medjugorje, c'est que Medjugorje est cette alliance entre deux groupes, un groupe qui vient là pour être nulle part, et un groupe, les Croates d'Herzégovine, qui viennent là pour refonder un territoire national. Et qui vont considérer très vite que cette Vierge, si cette Vierge est venue là, à Medjugorje, dans ce trou du cul du monde, au fin fond de l'Herzégovine, c'est pour montrer toute sa sympathie et son support à la malheureuse nation croate qui est constamment soit occupée par des communistes, quand ce n'est pas par des Ottomans, des Turcs, quand ce n'est pas par la nomenclature serbe.
Les familles des voyants ont été très touchées par ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, la famille des voyants a été très touchée. Deux générations avant, leurs grands-parents ont fait partie très souvent de ce qu'on a appelé la colonne de Bleiburg, c'est-à-dire une colonne conduite jusqu'à la frontière autrichienne par les troupes des Partisani et des jamais revenus, dont on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Et d'autre part, le séminaire qui a formé les franciscains de Medjugorje a été mis à feu. Les 40 moines qui étaient à l'intérieur ont été brûlés vifs en 44. Et au fond, les franciscains qui ont encadré la paroisse de Medjugorje à l'époque des apparitions,
sont leurs les héritiers de cette tradition.
Et ce monastère qui a été reconstruit a fini par faire partie du voyage pèlerin de Medjugorje.
Alors une question, ces franciscains, il y a toujours des ordres religieux aux côtés des vierges qui apparaissent, qui défendent la Vierge supposément miséricordieuse de Medjugorje, ils sont en conflit avec l'évêque du lieu. Et ce conflit dure depuis 1981, et voilà un phénomène, Medjugorje, qui n'a toujours pas été reconnu officiellement. L'évêque de Mostar vient encore de dire que la Vierge n'est pas apparue, et le pape se retrouve, en même temps qu'il va à Fatima demain et après-demain, détenteur d'un rapport d'une commission d'enquête internationale qu'on vient de lui donner sur Medjugorje, en le pressant d'enfin dire oui, non.
Oui, oui, c'est moi qui vais faire l'historien, là. C'est qu'effectivement, pendant la période ottomane, en quelques mots, pendant la période ottomane, ce sont les franciscains, et seulement les franciscains, qui sont restés présents à titre d'élite et d'encadrement. L'église officielle avait disparu, les élites, la féodalité, enfin, etc., etc. Et ils ont eu beaucoup de mal à supporter, et ils se sont retrouvés, eux, comme ceux qui négociaient avec l'Empire ottoman, comme ceux qui négociaient avec le Parti communiste, et ils ont mal supporté que des instances centralisatrices représentant Rome interviennent dans leur rapport d'autorité et de protection à l'égard des populations.
Les vierges sur les lignes de faille. Bientôt, il y aura, et c'est déjà le cas, des vierges qui apparaissent sur le net. Les questions topographiques ne se poseront plus, et puis il n'y aura plus de voyants illettrés qui transmettront la parole. Il faudra des bourgeois qui sachent manipuler le net. Merci à vous, Elisabeth Clavery, Les guerres de la Vierge. C'est chez Gallimard. Et puis un livre singulier sur Lourdes, qui n'est pas dans le style habituel, Découverte Gallimard. Chez vous, Mathieu Vidard.
Eh bien, on va parler d'un résistant de notre corps humain, Jean, le foie, organe donc imposant et à découvrir dans la tête au carré.
Alors, puisque je fais des génériques, vous aurez Victor de Leningen et Sandrine Letellier. Et quant au générique de la marche de l'histoire, elle a été préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Medifata et à la réalisation Valérie Aistaraï.